kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family.
Act 1, Scene 1. A desert place. Thunder and lightning. Enter three witches.
When shall we three meet again? In thunder, lightning, or in rain?
When the hurly-burly's done, when the battle's lost and won.
There will be ere the set of sun.
Where the place?
Upon the heath.
There to meet with Macbeth.
I come, Grimalkin.
Paddock calls.
Unknown.
Fair is foul, and foul is fair. Hover through the fog and fill the air.
Bienvenue, chers auditeurs, à Les yeux ont des oreilles. Le thème de ce deuxième épisode, l'épouvante, car je ne bois jamais des vins. Et j'arrêterai là cette tentative d'imitation de Bela Lugosi dans le rôle du comte Dracula. En fait, j'ai jamais vu le film, mais j'imitais le vampire hémophile dans Nile Buck, pour ceux qui connaissent. Je disais donc, bonjour chers auditeurs, Caroline à l'antenne, et tremblez pauvres mortels, car la lecture du jour de Les yeux ont des oreilles tourne autour du thème de l'épouvante. En Incipit, vous aurez peut-être connu le début de Macbeth, la célébrissime pièce de William Shakespeare, réalisée à quatre voix par votre courageuse petite équipe, Camille Didascali et Will, Caroline et Viviana, dans le rôle des affreuses sorcières. Pour la petite histoire, les Élisabéthains croyaient vraiment aux sorcières, donc elles avaient un potentiel épouvante on ne peut plus sérieux. Soit dit au passage, ce bruitage s'appelle le cri Willem. Non, pas notre Willem, mais au vu de la coïncidence, on n'a pas résisté au plaisir de le passer. Oui, je sais, on a raté Halloween, mais le mois de novembre, avec les jours qui raccourcissent, le froid qui s'installe, les pluies sinistres, est idéal pour jouer à se faire peur, et puis aller se terrer sous la couette et grignoter du chocolat. Médicament officiel contre la trouille, approuvé par Remus Lupin et J.K. Rowling. Nous, on a bien sûr sur la table Figaro, le crâne en papier mâché, qui contient des M&M's pour nous réchauffer le cœur. Pour se mettre dans le bain, quelques aveux. Personnellement, j'ai peur des guêpes, parce qu'elles piquent et qu'elles sont méchantes. Et j'ai le vertige, parce que j'ai le vertige. Et j'aime pas les escaliers. Alors je sais pas si mes camarades sont plus braves que moi. Viviana, t'as peur de quelque chose?
Oui, j'ai très peur de la foule. Et quand dans quelques lieux, il y a beaucoup de personnes, j'ai très peur. Je suis un peu agoraphobe.
Agoraphobe, ok. Camille?
Moi j'ai peur des chiens méchants, des gens qui font boue, et de mon prof de techno de 6e qui m'a traumatisée.
D'accord. Will?
Moi c'est pas les guêpes, j'ai une peur irrationnelle des pigeons, c'est-à-dire que les pigeons ils ont des yeux démoniaques, ça fait un peu sauron en miniature.
T'es les doigts pour aller à Venise?
Non bah c'est ça, non mais je peux pas aller à Venise, je suis interdit de Venise.
D'accord, les pigeons. Robin, t'as peur de quelque chose?
Robin
a très peur des problèmes techniques, d'accord, je peux compatir avec ça. Donc on est tous des trouillards, pas grave. Comme disait Nelson Mandela, l'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui conquiert cette peur. Et ma transition est donc tout trouvée pour laisser la parole à Viviana.
Nous voulons commencer cette émission sous l'horreur avec un extrait de La peur des gueux de Montpassant. La nouvelle est écrite en 1882. Et elle était dédiée à Joris Karl Huysmans, un autre écrivain très célèbre et un peu noir, juste pour rester dans le thème d'aujourd'hui. Montpassant, au début, donne une sorte de définition de la peur, et les symptômes sont donc décrits comme ça. Permettez-moi de m'expliquer. La peur, et les hommes les plus hardis pouvant avoir peur, c'est quelque chose d'effroyable. Une sensation atroce, comme une décomposition de l'âme, une spasme affreux de la pensée du cœur. Dans les souvenirs, seuls dans des frissons d'angoisse. Mais cela n'a lieu qu'à une épreuve, ni devant une attaque, ni devant la mort inévitable, ni devant toutes les formes connues du péril. Cela a lieu dans certaines circonstances anormales, sous certaines influences mystérieuses, en face des risques très vagues. La vraie peur, c'est quelque chose comme une réminiscence des terreurs fantastiques d'autrefois. Un homme qui croit au revenant et qui s'imagine apercevoir une spectre dans la nuit doit éprouver la peur en toute son épouvantable horreur.
Merci Viviana.
Il y a des mots qu'on lit sans les voir et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Tirés de sources aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. Aujourd'hui, Robin, notre technicien, a insisté pour se faire vanner à l'antenne avec un extrait du manuel de console de mixage que nous utilisons en studio mobile. Et étant donné le thème du jour, je ne pouvais pas décemment m'opposer à ces tendances masochistes, donc voilà. Dans la partie pour une utilisation optimale de votre console de mixage, page 11, petit 3, premier pas vers l'obtention d'un son de qualité supérieure. Avant de passer aux mixages et aux effets, il est important de vérifier que les niveaux sont correctement réglés individuellement pour chaque source. Nous n'insisterons jamais assez sur ce point. Le réglage initial des niveaux est d'une importance capitale pour obtenir des résultats optimums avec votre console de mixage. Voici pourquoi et comment. Petit 3, petit 1. La commande Gain de l'amplificateur principal en est la clé. Revenons au diagramme synoptique simplifié de la console de mixage. Donc je ne vais pas vous décrire le diagramme parce que je ne vois pas comment faire. Simplifier mon œil. Il y a in à un bout et out de l'autre. Donc c'est le trajet du son dans l'appareil. Il y a des flèches. Des boutons, une courbe d'encéphalogramme, des petits points et un plus. Chacune des étapes dans la console de mixage ajoute une certaine quantité de bruit au signal traité. L'amplificateur principal, l'égaliseur, l'amplificateur d'assemblage et les autres étapes de tampon et d'amplification présents dans le circuit de mixage. Ceci s'applique principalement aux consoles de mixage analogiques. Merci de le préciser. Il est à noter que la quantité de bruit ajoutée à chaque étape ne dépend généralement pas, de façon significative, du niveau du signal audio qui traverse le circuit. Ceci signifie que plus le niveau du signal à traiter est haut, moins le bruit est important par rapport à ce signal. En jargon technique, parce que le reste n'était pas technique du tout, on obtient alors un meilleur rapport signal-bruit, généralement abrégé en rapport SB. Tout cela conduit à la règle fondamentale suivante. Et attention, parce que c'est écrit en gras et encadré, donc on sait que c'est important. Pour obtenir le meilleur rapport SB, il faut amplifier le signal d'entrée au niveau moyen souhaité le plus tôt possible dans le cheminement de ce signal. Dans notre console de mixage, il s'agit de l'amplificateur principal. Si vous n'amplifiez pas suffisamment le signal à l'étape de l'amplificateur principal, vous devrez l'amplifier davantage lors des étapes ultérieures, ce qui augmentera le bruit produit au cours des étapes précédentes. Rappelez-vous aussi qu'une amplification initiale trop forte est mauvaise, car cela surcharge les circuits et provoque l'écrêtage du signal. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'était une façon de s'excuser pour la qualité douteuse du son dans le premier épisode. Donc, Robin, au vu des pouvoirs qui ne me sont conférés par personne, je t'accorde l'absolution au nom de Lio, de Figaro et de la Sainte Radio Transistor. Donc voilà, par rapport au sujet, c'est donc l'épouvante des problèmes techniques, comme le disait Robin. Moi aussi, j'en fais des cauchemars. Et si vous n'êtes pas convaincu, apprenez que l'autre jour, alors que j'essayais de valider ma carte dans le tram, le boîtier m'annonce « Dialogue en cours ». Tremble l'humanité, car l'invasion des machines a commencé. Elle parle. Et après le fantastique et le banal, nous passons au naturalisme, avec le monstre qui peut se cacher dans l'âme d'un être humain. La bête humaine, d'Émile Zola, lu par Willem.
Juste pour situer, là nous sommes à la page 414. Personnages, donc on a Séverine et Jacques, qui sont amants, qui prévoient d'assassiner le mari de Séverine. Mais, comme il revenait vers la fenêtre, il trouva, debout devant le lit, Séverine en chemise. « Si nous descendions avec la lampe, expliqua-t-elle, tu verrais l'endroit, tu te placerais, je te montrerais comment j'ouvrirais la porte et quel mouvement tu auras à faire. » Lui, tremblant, reculait. « Non ! Non, pas la lampe. Écoute donc, nous la cacherons ensuite. Il faut pourtant se rendre compte. Non, non, recouche-toi. » Elle n'obéissait pas. Elle marchait sur lui au contraire, avec le sourire invincible et despotique de la femme qui se sait toute puissante par le désir. Quand elle le tiendrait dans ses bras, il céderait à la chair, il ferait ce qu'elle voudrait. Et elle continuait de parler, d'une voix de caresse, pour le vaincre. « Voyons, mon chéri, qu'as-tu ? On dirait que tu as peur de moi. Dès que je m'approche, tu sembles m'éviter. » Et si tu savais en ce moment comme j'ai besoin de m'appuyer à toi, de sentir que tu es là, que nous sommes bien d'accord pour toujours, toujours, entends-tu ? Elle avait fini par l'acculer à la table et il ne pouvait la fuir davantage. Il la regardait dans la vive clarté de la lampe. Jamais il ne l'avait vue ainsi, la chemise ouverte, coiffée si haut qu'elle était toute nue, le cou nu, les seins nus. Il étouffait, luttant, déjà emporté, étourdi par le flot de son sang dans l'abominable frisson. Et il se souvenait que le couteau était là, derrière lui, sur la table. Il le sentait, il n'avait qu'à allonger la main. D'un effort, il parvint encore à bégayer. « Recouche-toi, je t'en supplie !» Mais elle ne s'y trompait pas. C'était la trop grande envie d'elle qui le faisait ainsi trembler. Elle-même en avait une sorte d'orgueil. Pourquoi lui aurait-elle obéi, puisqu'elle voulait être aimée ce soir-là, autant qu'il pouvait l'aimer, jusqu'à en être fou ? D'une souplesse câline, elle se rapprochait toujours, était sur lui. « Dis, embrasse-moi bien fort, comme tu m'aimes. Cela nous donnera du courage. Ah oui, du courage, nous en avons besoin. Il faut s'aimer autrement que les autres, plus que tous les autres, pour faire ce que nous allons faire. Embrasse-moi de tout ton cœur, de toute ton âme. Étranglé, il ne soufflait plus. Une clameur de foule dans son crâne l'empêchait d'entendre, tandis que des morsures de feu derrière les oreilles lui trouaient la tête, gagnaient ses bras, ses jambes, le chassaient de son propre corps sous le galop de l'autre, la bête envahissante. Ses mains n'allaient plus être à lui. Dans l'ivresse trop forte de cette nudité de femme, les seins nus s'écrasaient contre ses vêtements, le cou nu se tendait, si blanc, si délicat, d'une irrésistible tentation, et l'odeur chaude et âpre, souveraine, achevait de le jeter à un furieux vertige, un balancement sans fin où sombrait sa volonté, arrachée, anéantie. Embrasse-moi, mon chéri, pendant que nous avons une minute encore. Tu sais qu'il va être là. Maintenant, s'il a marché trop vite, d'une seconde à l'autre, il peut frapper. Puisque tu ne veux pas que nous descendions, rappelle-toi bien. Moi, j'ouvrirai. Toi, tu seras derrière la porte. Et n'attends pas. Tout de suite, oh, tout de suite pour en finir. Je t'aime tant, nous serons si heureux. Lui n'est qu'un mauvais homme qui m'a fait souffrir, qui est l'unique obstacle à notre bonheur. Embrasse-moi, oh, si fort, si fort. Embrasse-moi comme si tu me mangeais, pour qu'il ne reste plus rien de moi en dehors de toi. Jacques, sans se retourner, de sa main droite, tâtonnant en arrière, avait pris le couteau. Et un instant, il resta ainsi, à le serrer dans son poing. Était-ce sa soif qui était revenue de venger des offenses très anciennes dont il aurait perdu l'exacte mémoire, cette rancune amassée de mal en mal depuis la première tromperie au fond des cavernes ? Il fixait sur Séverine ses yeux fous. Il n'avait plus que le besoin de la jeter morte sur son dos, ainsi qu'une proie qu'on arrache aux autres. La porte d'épouvante s'ouvrait sur ce gouffre noir du sexe, l'amour jusque dans la mort, détruire pour posséder davantage. Embrasse-moi, embrasse-moi. Elle renversait son visage soumis d'une tendresse suppliante, découvrait son cou nu à la tache voluptueuse de la gorge. Et lui, voyant cette chair blanche, comme dans un éclat d'incendie, leva le poing, armé du couteau. Mais elle avait aperçu l'éclair de la lame, elle se rejeta en arrière, béante de surprise et de terreur. Jacques, Jacques, moi, mon Dieu, pourquoi, pourquoi ? Les dents serrées, il ne disait pas un mot. Il la poursuivait. Une courte lutte la ramena près du lit. Elle reculait, hagarde, sans défense, la chemise arrachée. « Pourquoi, mon Dieu, pourquoi ?» Et il abattit le poing, et le couteau lui cloua la question dans la gorge. En frappant, il avait retourné l'arme, par un effroyable besoin de la main qui se contentait. Le même coup que pour le président Grand Morin, à la même place, avec la même rage. Avait-elle crié ? Il ne le sut jamais. À cette seconde passait l'express de Paris, si violent, si rapide, que le plancher en trembla. Et elle était morte, comme foudroyée dans cette tempête. That boy is a monster. That boy is a monster.
Merci pour cette lecture dérangeante, Will. Et aussi pour avoir choisi la virgule qui suivait, Monster, de Lady Gaga. Vu qu'on n'est pas sûr que Gaga soit humaine, c'est doublement dans le mille. Ici, à Les yeux ont des oreilles, on n'est pas snob, et en voici la preuve. Après vous être gargarisé avec ces monstres sacrés de la littérature française que sont Maupassant et Zola, entrez en contact avec le fantôme de votre enfance, car Camille va vous lire un extrait de Scooby-Doo et le Château Hanté.
Dans cet épisode, Scooby-Doo et ses amis explorent un château hanté. Vera examinait les armes accrochées au mur. Un énorme bouclier attira son attention. Orné d'un lion en or massif aux grands yeux émeraudes, il était impressionnant. Toute griffe dehors, l'animal sculpté semblait prêt à attaquer. « Le blason des Montgomery, j'en suis certaine » songea-t-elle, en touchant les griffes qui saillaient légèrement. Une porte s'ouvrit alors dans le mur de pierre. « Un passage secret » murmura-t-elle. Lampe de poche en main, elle s'engagea dans la galerie. Dans un bruit inquiétant, la porte dérobée se referma sur elle. Scooby et Sammy, trop occupés à faire l'épître, n'avaient bien sûr rien remarqué. Sammy s'était déguisé en chevalier. Coiffé d'un homme, il faisait de grands moulinets avec une épée.
« Sire ragoût de porc, moi sire rhum steak de bœuf, je te défie !»
Scooby éclata de rire.
« Scooby-Doo, ragoût » chantonna-t-il. « Nous devons nous affronter en duel, pour savoir qui mangera la dernière tranche de viande !» reprit Sammy. « Prends ça !»
Sammy plongea, la pointe de l'épée en avant. Scooby l'évita de justesse et arracha une épée d'une armure. Il fonça à son tour sur Sammy, mais celui-ci l'esquiva juste à temps et contre-attaqua. Scooby détala en slalomant entre les armures.
« Je vous aurai, sire ragoût de porc !» cria Sammy en le poursuivant.
Il réussit enfin à le coincer.
« Et maintenant, sire ragoût de porc, faites votre prière. »
Scooby leva les yeux et aperçut le fantôme de War Montgomery juste derrière Sammy.
« Risty ! Fantôme ! Fantôme !» l'avertit Scooby. « Vous avez raison, sire ragoût de porc. La dernière tranche sera pour ma pomme. Vous avez une objection ?»«
Derrière toi !»
« Il y a quelque chose derrière moi ?» Scooby hocha la tête avec véhémence. Sammy se retourna lentement et jeta un œil par-dessus son épaule.
« Ah ! Le fantôme ! Le fantôme !»
Les deux amis se faufilèrent entre les jambes du revenant. « Par ici, Scoob !» cria Sammy en courant vers les armures. Scooby le suivit. Le fantôme aussi.
« Plus vite, Scooby !» hurla Sammy.
Ils se tapirent derrière la dernière armure de la rangée. Haletant, le fantôme de War Montgomery scrutait les alentours sans comprendre. Où était-il passé ?
« Regarde, Scoob !» chuchota Sammy.
Le fantôme est encore plus essoufflé que nous.
Scooby ne voulait pas rater ça. Un fantôme essoufflé. Il se pencha et se cogna dans l'armure qui les cachait. Elle bascula lentement sur celle qui l'a précédée. Crac et crac, crac, crac. Toutes les armures tombèrent les unes après les autres comme des dominos. Le fantôme se retourna dans Bond et aperçut Sammy et Scooby.
Vite, Scooby, là-dedans!
Sammy sauta dans le coffre. Scooby le suivit et rabattit vite le couvercle. Clac! L'occasion était trop belle. Le fantôme ferma aussitôt le verrou.
Ce bruit-là me flanque les chocottes, gémit Sammy. Au secours! À l'aide! Au secours! Au secours!
Scooby et Sammy donnèrent des coups de poing furieux contre les parois du coffre.
Au secours! Fred! Daphné! Au secours!
Nous sommes perdus, soupira Sammy.
À l'époque nostalgique où on sursautait avec les monstres et où on croyait encore au sandwich auquel Sammy est accro. Merci Camille. Sous tous les climats et à toutes les époques, les hommes aiment se raconter des histoires pour se faire peur au coin du feu. Voyage maintenant en Ukraine, appelée aussi Petite Russie, où le narrateur Panko le Rouge, pseudonyme sous lequel se dissimule Nicolas Gogol, nous rapporte les histoires folkloriques contées pendant les soirées du hameau. Extrait de La Nuit de la Saint-Jean, traduit par Michel Couturier, lu par Viviana.
« Non, tu n'auras pas cette or avant d'avoir procuré du sang humain, » dit la sorcière. Et elle lui présenta un enfant de 6 ans environ, recouvert d'un drap blanc, tout en l'invitant du geste à trinquer le cou de la victime. Petro resta figé d'horreur. Ce n'est pas rien que de couper sans raison la tête de quelqu'un qui ne voit rien fait et qui plus est d'un enfant innocent. Furieux, il attracha les drapes qui couvraient la tête de l'enfant. Et mais croirez-vous, c'était Ivan. Il était là, le pauvre enfant, les bras croisés sous la poitrine, la tête inclinée. Fou de rage, Petro s'élança sous la sorcière et déjà il brandissait son couteau. Et est-ce que tu m'as promis pour avoir la jeune fille? Hurla Brassebrook. Et cette fois, comme si lui lui jetait une balle dans les dos, la sorcière tapa du pied. Une flamme bleue s'éleva du sol. Des pieds d'or, des pierres précieuses, dans les coffres, dans les chaudrons, s'amoncelant sur la terre, à l'endroit même où s'ils trouveraient. Les yeux de Petro s'enflammeront. Son esprit se brûla. Comme un fou, il empoigne son couteau. Et les sangs, innocent, lui glissa au visage. Des rires diaboliques éclatèrent de toutes parts. Des troupeaux de monstres et de gambédans devant lui. La sorcière, plantant ses griffes dans le corps décapité, embouvait les sangs comme un loup. Tout se mit à danser dans la tête du jeune homme. Rassembla ses forces, il se mit à courir. Il ne voyait partout que du rouge. Les arbres, tous en sang, paraissaient flamber en gémissant. Le ciel, incandescent, tremblait. Des taches de feu comme des glaires passaient devant ses yeux. À bout d'effort, il entra en courant dans sa mesure et s'abattit comme un gerbe. Un sommeil de plomb s'empara de lui.
J'ai pas peur de la foule, de la mort, des Ardennes, de la Sarthe, de la pluie sur les cartes. J'ai pas peur du hors-bord, du offshore, de l'été à des farcs. Quand j'entends ton cœur battre, je ne crains personne, pas même un lion, pas même le roi des cons.
Merci Viviana. Jeanne Chéral n'a pas peur, c'est bien la seule. Et il y en a un autre qui se rit des mécanismes traditionnels de l'horreur, l'esprit provocateur d'Oscar Wilde. La preuve, le fantôme de Canterville, traduit par Jules Castier, lecture proposée par Camille. Des Américains modernes, qui n'ont pas peur des fantômes, ont acheté un château hanté en Écosse.
Monsieur Otis fut réveillé par un bruit bizarre dans le couloir, à l'extérieur de sa chambre. On eût dit un tintement de métal, et il semblait se rapprocher d'instant en instant. Il se leva immédiatement, frotta une allumette et regarda l'heure. Il était exactement 1 heure. Monsieur Otis était très calme et se tâta le pouls, qui n'était nullement fébrile. Le bruit étrange se prolongea encore et il entendit en même temps distinctement un bruit de pas. Il chaussa ses pantoufles, prit dans sa mallette une petite fiole oblongue et ouvrit la porte. Juste en face de lui, il vit, au pâle clair de lune, un vieillard d'aspect terrible. Il avait des yeux rouges, pareils à des charbons incandescents. Une longue chevelure grise lui tombait sur les épaules en tresses en mêlée. Ses vêtements, d'une coupe ancienne, étaient salis et élimés. De lourdes menottes et des fers rouillés lui pendaient aux poignets et aux chevilles.
« Cher monsieur, » dit monsieur Otis, « permettez-moi vraiment d'insister auprès de vous pour que vous huiliez ces chaînes. Je vous ai apporté à cette fin un petit flacon de lubrifiant Soleil Levant Tambani. On le dit totalement efficace dès la première application et il a sur l'emballage plusieurs attestations allant dans ce sens émanant de quelques-uns de nos ecclésiastiques les plus éminents. Je le laisse ici, pour vous, à côté des veilleuses et je me ferai un plaisir de vous en fournir encore, au cas où vous en auriez besoin. » Sur ces mots, le ministre des États-Unis posa le flacon sur une table à dessus de marbre et, fermant sa porte, se retira dans sa chambre pour se reposer. Un instant, le fantôme de Canterville demeura absolument immobile, dans un excès d'indignation bien naturel. Puis, ayant lancé violemment le flacon sur le parquet poli, il s'enfuit le long du couloir en poussant des gémissements sourds et en émettant une lueur verdâtre et fantomatique. Dès qu'il eut atteint un petit cabinet secret dans l'aile gauche, il s'appuya contre un rayon de lune pour reprendre haleine et se mit en devoir de faire le point de sa situation. Jamais, au cours de sa carrière brillante et ininterrompue depuis 300 ans, il n'avait été aussi grossièrement insulté. Tous ses grands triomphes lui revinrent en mémoire, depuis le cas du maître d'hôtel qui s'était tué d'un coup de pistolet dans l'office parce qu'il avait vu une main verte frappant au carreau, jusqu'à celui de l'abeille Lady Stuffield, qui fut contrainte définitivement de porter un ruban de velours noir autour de sa gorge pour cacher la brûlure qui avait laissé 5 doigts sur sa peau et qui finit par se noyer dans l'étang aux carpes à l'extrémité de l'allée du roi. Avec l'égotisme enthousiaste du véritable artiste, il passa en revue ses exploits les plus célèbres et eut un sourire amer en se remémorant sa dernière apparition en tant que Ruben le Rouge ou le nourrisson étranglé, ses débuts comme Gédéon le Décharné, le suceur de sang de Bexleymore, et le succès prodigieux qu'il avait obtenu par une splendide soirée de juillet, simplement en jouant aux quilles avec ses propres ossements sur le court de tennis gazonné. Et après tout cela, quelques misérables Américains modernes venaient lui offrir le lubrifiant Soleil Levant et lui lancer des oreillers à la tête. C'était absolument intolérable. D'ailleurs, aucun fantôme de l'histoire n'avait jamais été traité ainsi. Aussi résolut-il de se venger, et il demeura jusqu'au jour plongé dans une profonde méditation.
Merci Camille, qui nous a également donné la chair de poule en nous proposant en virgule un extrait de Nuit de Yanis Xenakis. Je vous lis la dédicace qui accompagne cette œuvre a cappella pour le moins étrange. Pour vous, obscur détenu politique, Narciso Julian, Espagne depuis 1946, Costa Filinis, Grèce depuis 1947, Eli Iriadrou, Grèce depuis 1950, Joaquim Amaro, Portugal depuis 1952. Et pour vous, milliers d'oubliés, dont les noms mêmes sont perdus. Une autre façon, moins joyeuse, de se glacer le cœur. Et pour vous remonter le moral, je n'ai malheureusement rien de mieux qu'un théoricien du XVIIIe siècle, dont une citation va servir de point de départ pour discuter de nos lectures et de l'épouvante. On vous rabat probablement les oreilles avec la catharsis, la terreur et la pitié, théorisées par un certain Aristote depuis le lycée. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, chez nos amis les Anglais, la catharsis cède la place à l'extasis, une idée qu'ils tirent d'un autre vieux poussiéreux nommé Longinus. Il ne s'agit plus de se purger de ses passions négatives, mais d'être transporté par elles. Le siège des Lumières, certes. Mais pour les British, il faut exercer ses émotions autant que son esprit. Donc l'extasis est une sorte de gymnastique. Non mais sans blague. Le grand concept esthétique est le sublime, une beauté masculine, effrayante, que l'on trouve dans les actions de Dieu et dans les phénomènes naturels, et qui fait éprouver au spectateur une terreur mêlée d'admiration et du sentiment de sa propre insignifiance. Dans un article du journal The Spectator, intitulé « On the Pleasures of Imagination », Joseph Addison se penche sur la nature contradictoire de sentiments lorsqu'il naît d'une lecture poétique. « The two leading passions which the more serious parts of poetry endeavor to stir up in us are terror and pity. But how comes it to pass that we should take delight in being terrified or dejection by description when we find so much uneasiness in the fear or grief which we receive from any other occasion? If we consider, therefore, the nature of this pleasure, we shall find that it does not arise so properly from the description of what is terrible as from the reflection we make on ourselves at the time of reading it. When we look on such hideous objects, we are not a little pleased to think that we are in no danger of them. We consider them at the same time as dreadful and harmless, so that the more frightful appearance they make, the greater is the pleasure we receive from the sense of our own safety. In short, we look upon the terrors of a description with the same curiosity and satisfaction that we survey a dead monster. » Traduction par moi, faute de mieux. Les deux passions majeures que les passages poétiques plus sérieux réussissent à évoquer en nous sont la terreur et la pitié. Mais comment se fait-il que nous prenions plaisir à être terrifiés ou démoralisés par une description, alors que la peur et la peine, qui nous échoient en toute autre occasion, sont source de tant de mal-être ?
Si donc nous nous penchons sur la nature de ce plaisir, nous découvrirons qu'il n'est causé pas tant par la description d'une chose terrible que par l'introspection que nous menons au moment de la lecture. Lorsque notre regard se pose sur ces objets hideux, nous ressentons une satisfaction non négligeable à l'idée qu'ils ne représentent pas un danger pour nous. Nous les considérons donc, au même moment, comme épouvantables et inoffensifs. Si bien que plus leur apparence est effrayante, plus grand est le plaisir que nous tirons de notre propre sentiment de sécurité. En résumé, notre regard se pose sur les horreurs d'une description donnée avec la même curiosité et la même satisfaction avec laquelle nous examinons un monstre mort. Donc on a vu un certain nombre de monstres humains ou non dans nos extraits, même si on ne peut pas vraiment dire qu'ils étaient morts. Je pense que cette notion de distance sous les Paradison s'appliquait assez bien, surtout au passage où on avait du comique, qu'il soit farcesque comme Scooby-Doo ou plus subtil avec Wilde. Et même avec Zola, vous ne pouviez pas le voir, chers auditeurs, mais qu'au début, quand Will lisait La Bête humaine, on faisait des grimaces et on rigolait un peu. À cause justement de cet excès de sentiments amoureux, même si par la suite on rigolait plus autant quand il était en train de la tuer. Donc c'est sûr que cette distance peut exister même à des moments inattendus. Et Camille, tu nous parlais avant l'émission des conditions de réception des histoires d'horreur, par exemple le fait que dans Gogol, il s'agit d'histoires qui sont faites pour être récitées au coin du feu, pour se faire peur en société. C'est quand même un cadre assez particulier. Ce que je me disais en écoutant Vivienne à lire, c'est qu'avec son charmant accent, il y a une sorte d'étrangeté et de proximité qui se crée avec le texte lui-même. Et effectivement, on voit que c'est un autre pays et des sorcières, un monde vraiment étrange. Donc, Viviana, est-ce qu'en lisant...
Ça te faisait peur, ces histoires de sorcières, ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre à distance pour lire un passage comme ça, à ton avis ?
Ok, je pense que... Tu dois mettre un peu de distance quand tu lis quelque chose pour faire peur, pour faire rire. Et c'est un moi que aussi les acteurs utilisent pour réciter quelque chose.
Mais par exemple, quand tu fais la sorcière dans Macbeth, ouais. Si tu as peur, tu n'es pas effrayante. Alors que là, il faut que tu prennes un peu ce rôle de j'ai le pouvoir, je te fais peur.
Je pense que tu dois, quand tu mets en scène quelque chose, tu dois penser comme les protagonistes du roman. Donc, tu ne dois pas avoir peur parce que tu n'es pas le lecteur, tu es le protagoniste. Donc, tu dois faire la sorcière, tu dois faire la voix comme ça, un peu, pour faire peur.
L'idée, c'est de devenir soi-même le monstre.
Après, à l'inverse, dans Xenakis, ce qui nous fait peur, c'est que c'est des cris de prisonniers. Donc, c'est des gens qui ont peur et on vit leur peur un peu par empathie, par exemple, dans le morceau qu'on a entendu. Là, c'est encore différent. Après, c'est notre média, c'est de la musique.
Quand tu nous l'as fait écouter, au début, on ne savait pas que c'était des cris de prisonniers. Et oui, il a fait un bond de 3 mètres.
Ça, c'était pas censé être dit à la radio.
C'est pas grave, on le dit quand même. Non, mais les cris en eux-mêmes sont terrifiants, quoi. Ça donne la chair de poule.
Aussi, justement, la distance que ça peut créer entre la musique ou le texte et justement le récepteur, donc le lecteur ou l'auditeur. Parce que ça installe le sentiment d'étrangeté qu'en fait, ça vient contrebalancer ce à quoi on pourrait s'attendre, quoi. Ce qui fait que, comme il y a ce sentiment d'étrangeté horrible, il y a aussi cette peur de l'inconnu, en fait.
Et au contraire, dans les deux livres que j'ai lus qui sont plutôt drôles, donc Scooby-Doo et Le Fantôme de Canterville, c'est justement parce qu'on reprend que des codes super précis et c'est pour ça que ça ne fait plus peur du tout. Enfin, le fantôme terrifiant avec ses chaînes, c'est totalement usé comme code et donc on n'a plus peur du tout parce qu'il n'y a plus cette étrangeté-là qui fait peur finalement.
L'effet rigolo, c'est qu'on utilise les clichés littéraires de légendes horrifiques.
Oui, les clichés. C'est vrai que le temps, mais aussi une distance. Je vous disais, les Elisabethins, ils croyaient vraiment aux sorcières. La situation. Ce qu'on disait, oui, effectivement, comme une situation différente. En plus, comme on a mis Xenakis juste après Oscar Wilde, c'est pas du tout le même ton et ça crée un contrepoids qui peut faire se sentir mal à l'aise. Et c'est pareil, je pense que. Oui, il a sursauté, non pas parce qu'il est trouillard, mais parce que au moment où Camille nous a fait passer l'extrait, on parlait, on pensait à autre chose et tout d'un coup, il y a ce bruit qui apparaît et plus quoi penser et notre corps se rebelle.
Et puis c'est peut-être même limite plus rassurant de savoir que ce sont des cris de prisonniers. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a surtout fait peur, c'est que. Franchement, je ne savais pas du tout si c'était un cri humain, un bruit fait par ordinateur ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui brise totalement ce que... C'est vrai que c'est quelque chose de totalement terrifiant. Et
c'est le but de l'œuvre de faire peur, je pense. Donc...
Oui, c'est réussi. Enfin,
quand on est seul chez soi et qu'on entend des bruits bizarres, on a peur parce qu'on n'arrive pas à identifier ce que c'est. Quand on sait ce que c'est, quand on sait que la tuyauterie, elle est vieille et que ça craque, bah, ça va, quoi. On accepte.
C'est une expérience vécue.
Oui, vécue, tout à fait, chez mon grand-père.
Merci Viviana.
Je les affectionneurs.
C'est pour ça que quand t'es enfant, t'as peur, parce que tu connais moins de choses, t'as moins d'expérience et je sais pas, le moindre chose qui, le moindre bruit bizarre dans la nuit, tu peux pas l'identifier. D'où Scooby-Doo, c'est hyper effrayant quand t'es enfant. C'est terrible.
Mais du coup, les enfants, ils ont pas la distance, ils peuvent pas mettre de distance grâce à l'intellect, mais n'empêche qu'ils ont quand même plaisir à se faire peur. Donc, ouais, c'est complexe cette idée proposée par Addison.
C'est aussi que la peur, c'est un peu comme le plaisir, c'est quelque chose de physique aussi. C'est-à-dire que la peur, c'est aussi, quand on tremble, quand on crie, c'est quelque chose de très, très physique. Donc, il y a aussi une dimension assez sensuelle, finalement, dans la peur.
Mais d'ailleurs, ton extrait de La Bête humaine était très érotique. Donc, c'est assez intéressant, ce rapport entre cette femme qui est donnée à un homme et qui a les suspens en pleine scène érotique et cet homme qui, lui, est aux prises avec ses passions un peu plus noires.
Même carrément meurtrière. Oui.
On en revient encore au corps, comme dans la première émission.
C'est le thème de l'année.
On lit, on essaye de rendre les textes vivants, donc forcément, qu'on mette de la distance ou qu'on reste proche du texte, le corps est important, effectivement. Parce qu'on se sent vivant quand on a peur, après tout.
C'est peut-être ça l'intérêt, finalement, de se faire peur.
Mmh. Voilà, auditeur, nous espérons t'avoir fait te sentir très vivant par la peur que nous t'avons inspirée.
Voilà, quelques zombies pour finir, ça met toujours de bonne humeur. C'était Thriller de Michael Jackson. Encore un qui n'avait pas l'air très humain étant vivant et qui, même mort, ne l'est pas vraiment. Nous arrivons à la fin de cette émission, merci de l'avoir écouté, et nous espérons vous avoir donné la chair de poule aux yeux et aux oreilles. Ouais, pas top comme métaphore. Et si nous avons misérablement échoué, tant pis, l'avantage d'une émission de lecture, c'est que vous pouvez vous empresser de fourrer le nez dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe. Tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont tes oreilles. Copyright Camille. Cette émission a été préparée tous ensemble, mais la majorité du pôle musique est à mettre sur le compte de Camille et Willem. Merci à Robin à la technique, qui devait mettre un t-shirt que je devais lire, mais il a oublié. Donc tant pis, prochaine fois. T'en as un avec un ours. Mais je peux pas le lire. Ouais, ok, donc ça fait peur. Donc un ours qui fait peur sur le t-shirt de Robin. Si tout se passe bien, nous vous reverrons dans 2 semaines pour une émission sur le thème littérature et musique. D'ici là, il y a tout plein de choses bien sur Transistor, vos oreilles ne seront pas en reste. En guise d'envoi, un autre monstre sacré de la littérature, le poème The Raven d'Edgar Allan Poe. Le saviez-vous, il existe un admirateur acharné de Poe qui, jusqu'à quelques années, se rendait tous les ans sur sa tombe le jour de son anniversaire, 19 janvier, pour lui porter un toast avec du cognac et laisser 3 roses. C'est mignon, hein ? Voici donc les 4 dernières strophes de The Raven, la version originale lue par moi, et la version française lue par Willem, qui nous offre sa propre traduction.
Prophète, dis-je, chose du démon, certes prophète, que tu sois oiseau ou démon, que tu sois envoyé par le tentateur ou qu'une tempête t'ait échoué sur ses bords, naufragé mais encore intrépide, sur le désert de ces lieux maudits et insipides, sur cette maison hantée par l'horreur, dis-moi vraiment, je t'implore, existe-t-il un baume en Judée ? Dis-moi, je t'implore. Dixit le corbeau, jamais plus.
Prophet, said I, thing of evil, prophet still if bird or devil, over tempter sent, over tempter's tossed thee here ashore, desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore, is there balm in Gilead? Tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore.
Prophète, dis-je, chose du démon, certes prophète, que tu sois oiseau ou démon, par ce havre qui nous surplombe, par ce dieu que nous adorons tous deux encore, dis à cette âme chargée de chagrin, si dans le vierge paradis lointain, elle pourra embrasser une vierge de satin, que les anges nomment Lénore, embrasser une rare et radiante vierge de satin, que les anges nomment Lénore. Dixit le corbeau, jamais plus.
Prophet, said I, thing of evil, prophet still if bird or devil, by that heaven that bends above us, by that God we both adore, tell this soul with sorrow laden, if within the distant Aden it shall clasp a saintly maiden whom the angels name Lenore, clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore.
Que ce mot soit le signal de notre séparation, hurlai-je en me levant plein d'émotion. Retourne dans tes tempêtes et aux rivages plutoniens de la nuit morte. Ne laisse aucune plume noire en souvenance du temps où tu prononças le mensonge rance et laisse à ma solitude toute sa puissance. Quitte le buste au-dessus de ma porte, retire ton bec de mon cœur et prends ton envol. Vole loin de ma porte. Dixit le corbeau, jamais plus.
Be that word our sign of parting, bird or fiend, I shrieked upstarting. Get thee back into the tempest and the night's plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul has spoken. Leave my loneliness unbroken. Quit the bust above my door. Take thy beak from out my heart and take thy form from off my door. Quoth the raven. Nevermore.
Et le corbeau impassible est toujours assis sur le buste placide de Pallas, juste au-dessus de ma porte sans répit, avec son regard ressemblant à un démon rêvassant, et la lumière de la lampe sur lui ruisselant, jette son ombre sur le tapis, et mon âme, hors de cet ombrage étendu, flotte au-dessus du tapis. Elle ne pourra plus s'élever, jamais plus.
And the raven, never flitting, still is sitting. Still is sitting on the pallid bust of Pallas, just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming. And the lamplight over him streaming throws his shadow on the floor. And my soul, from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted, nevermore.